Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. David Elbaz, bonjour.
Bonjour, Solange Chouchana.
C'est un plaisir de parler de nouveau à l'antenne Radio Judaïka d'un de vos livres. Alors, nous avons déjà parlé il y a une ou deux semaines du livre « Les 10 001 nuits de l'univers, la danse du cosmos ». C'est un livre qui est paru en 2022. Nous avons aussi parlé de « À la recherche de l'univers invisible, matière noire, énergie noire, trou noir ». Qui est paru en 2016. Et aujourd'hui, c'est du livre « La plus belle ruse de la lumière » et « Si l'univers avait un sens » et qui est paru en 2021. Alors, vous présentez, s'il est nécessaire, vous êtes astrophysicien, directeur scientifique du département d'astrophysique du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous enseignez la formation des galaxies à l'université Paris Sud, au Master M2, et vous écrivez des livres, vous êtes auteur de documentaires, d'essais chez Odile Jacob. D'ailleurs, le livre dont nous allons parler, comme des précédents, est publié chez Odile Jacob.
Il se trouve que de plus en plus, la science, la physique est imbriquée dans notre société. On se tourne beaucoup vers la science pour avoir des questions, à des énigmes, ne serait-ce que pour la santé ou autre, et la science est vraiment omniprésente, et c'est important de resituer les questions scientifiques qu'on se pose dans un contexte qui nous positionne aussi face à la question de nos origines. De tout temps, l'être humain s'est demandé d'où il venait. Et est-ce que son existence relève d'un pur hasard ou est-ce qu'elle s'inscrit dans une sorte de logique, pas nécessairement une intention, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui donne un peu, qui permet de se repérer dans cette histoire. Et donc pour moi, le travail de partager les découvertes scientifiques s'accompagne d'une réflexion, et c'est l'occasion pour moi aussi d'avoir cette réflexion pour essayer de sortir du cadre purement mathématique et scientifique et voir comment, quelles implications ce qu'on découvre dans nos études, quelles implications elles ont sur notre quotidien, sur notre perception de notre histoire à nous en tant qu'individu, en tant qu'être humain.
Alors pour le livre qui nous intéresse aujourd'hui, « La plus belle ruse de la lumière » et « Si l'univers avait un sens en 2021 », c'est poignant pour un être humain qui pourrait se demander s'il y avait un sens aléatoire ou un sens nécessaire physique ou un sens mythologique, mystique, religieux. C'est une question qui est un vrai gouffre d'émotions pour l'être humain.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects à cette question, comme vous l'avez dit. Et il y a des aspects qui ne relèvent pas de la science, que la science ne peut pas vraiment aborder, qui donnent un sens. Pourquoi sommes-nous là, par exemple? Mais en même temps, on se rend compte que nous, depuis qu'on sait que l'univers a une histoire, on peut se demander si nous, notre place dans l'univers, c'est juste le fruit d'un pur hasard complètement aléatoire, ou bien si c'est notre émergence, que la vie, l'émergence de la vie dans l'univers, quelque part, suit un sens. Alors, qu'est-ce que j'entends par la notion de sens? Ben, de la même manière que l'eau qui coule le long d'une pente coule du haut vers le bas, est-ce que notre existence, quelque part, fait logique avec l'histoire de l'univers? Et ce qu'on découvre avec les études de l'histoire de l'univers, c'est que la vie est un des éléments d'une succession d'événements qui ont organisé le monde en forme de plus en plus riche, complexe, et qui sont singulières et qui sont nées les unes après les autres, et la vie s'inscrit dans cette histoire-là. Et en ce sens, elle s'inscrit dans un sens qui n'est pas simplement un pur hasard.
Alors, ce titre, « La plus belle ruse de l'univers », et si l'univers avait un sens en 2021, est-ce que vous pouvez l'éclairer et nous dire quel est le rôle de la lumière. En quoi consiste cette plus belle ruse de la lumière ?
Alors, vous savez, Einstein, en 1905, en mars 1905, a écrit un article. Cet article, c'était autour de la lumière. Et c'est grâce à cet article qu'il a reçu le prix Nobel. Alors, Einstein est connu pour sa théorie de la relativité, le fait que lorsqu'on se déplace très vite, le temps s'écoule plus lentement, ou le fait qu'il puisse exister des trous noirs dans l'univers. Mais ce pourquoi il a reçu le prix Nobel, c'est pour s'être interrogé sur la question de la lumière. Il y avait un grand mystère à l'époque, au début du XXe siècle, qui était de savoir comment se fait-il qu'un objet qui rayonne de la lumière rayonne une certaine quantité de lumière. Et à l'époque, on pensait que la lumière était faite d'ondes. Et ce qu'a découvert Einstein, c'est que la lumière était faite de grains de lumière, qu'on appelle aujourd'hui des photons. Et ceci a une implication majeure. C'est que le fait que l'univers contienne des grains d'énergie qu'on appelle des particules de lumière va donner un sens tout à fait différent à l'histoire de l'évolution. Je vais vous donner un exemple très simple. Si je prends un verre et que je le laisse tomber, ce verre va se casser. Et les morceaux de verre vont être distribués de manière totalement aléatoire par terre parce qu'il est beaucoup plus probable qu'ils soient distribués de manière aléatoire que d'avoir des morceaux de verre qui vont, par exemple, dessiner un parfait triangle. Eh bien, ça veut dire que le temps s'écoule toujours dans une même direction. Le temps s'écoule vers ce qui est plus probable. Et pendant longtemps, les physiciens pensaient que le plus probable, c'était le désordre, c'était le chaos, et que le monde tendait vers toujours plus de désordre. Mais si on prend en compte maintenant le fait que le verre qui est tombé ne contient pas uniquement des morceaux de verre, des atomes, des molécules, mais il contient aussi des morceaux d'énergie, qu'on appelle les particules de lumière, alors on s'aperçoit que dans l'univers, ce qu'on observe, ce sont des verres qui se reconstituent et qui produisent un grand nombre de morceaux d'énergie qu'on appelle des particules de lumière. C'est quelque chose qui est observé, le fait que depuis le début de l'histoire de l'univers, on commençait, la première structure qui est née, ce sont des atomes, puis des molécules, puis des grains de poussière, des étoiles, des planètes jusqu'à la vie. Et tout ça, eh bien, c'est comme des verres qui se cassent, mais non pas en morceaux de matière, mais en morceaux d'énergie. L'énergie se casse en morceaux, et ces petits morceaux, ce sont des particules de lumière. Alors si je résume ça, qui peut paraître un peu compliqué, dit comme ça, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que du fait de l'existence de la lumière, l'univers a produit depuis le début de l'histoire de l'univers toujours plus de grains de lumière. Le nombre de grains de lumière n'a cessé d'augmenter. Et le résultat de cette histoire, c'est que la matière, en contrepartie, n'a cessé de s'organiser. Or, le rôle de la lumière paraît totalement invisible. C'est quelque chose qu'on ne considère généralement pas. On regarde juste l'organisation de la matière. Et c'est pour ça que j'ai appris cette phrase qui est tirée d'un poème de Charles Baudelaire qui disait « N'oubliez jamais, quand vous entendrez vanter le progrès des Lumières, que la plus belle ruse du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. » Eh bien, quelque part, la plus belle ruse de la lumière, c'est de nous persuader que nous sommes la matière, finalement, ce qui dirige l'évolution, mais en réalité, en physique, quand on prend en compte le rôle de la lumière, on s'aperçoit que c'est elle qui dirige, qui contrôle l'évolution du temps, l'évolution de la structuration de l'univers, et que si nous existons, c'est grâce à la lumière. Et mieux que ça, en fait, on s'aperçoit que la vie est la plus puissante source de lumière qui a jamais été construite dans l'univers. C'est-à-dire que les êtres vivants sont des sources de lumière dans l'univers, et c'est parce qu'ils sont des sources de lumière dans l'univers qu'ils existent. D'un point de vue mathématique, on appelle ça le second principe de la thermodynamique, l'augmentation de l'entropie. Ça s'écrit mathématiquement, mais d'un point de vue simplement accessible à tous, eh bien, c'est que la lumière est une organisatrice, une sculptrice de la matière, et elle est l'auguste rodin de l'univers.
Alors, quelque part, j'ai lu ou j'ai entendu que nous vivons dans un univers mu par une propension au désordre. Pourtant, comment expliquer, alors que ce désordre ait pu aboutir à quelque chose de si défini, de si fini abouti, comme l'apparition de la vie, un chef-d'œuvre, au processus non pas erratique, mais déterminé, ciblé, accompli, point d'interrogation ?
Eh bien, en fait, c'est vraiment ça l'élément vraiment subtil. La question que vous posez là, elle est vraiment fondamentale, c'est-à-dire que ce que l'on appelle le désordre, en fait, c'est un diminutif, c'est une simplification d'un autre concept, qui est le concept d'aller vers ce qui est le plus probable. Et sur Terre, dans ma cuisine, le plus probable, ça va être le désordre. Si je laisse les choses aller sans ranger ma cuisine, elle va aller vers toujours plus de désordre. Et c'est ce que l'on quantifie avec ce terme qu'on appelle, qui est un peu compliqué, mais qu'on appelle simplement l'entropie. E-N-T-R-O-P-I-E. Mais dans l'univers, lorsqu'on jette un ensemble de particules dans l'espace, elles vont s'attirer, elles vont s'organiser, elles vont prendre forme et elles vont conduire jusqu'à la vie de manière naturelle. Et donc là, la propension naturelle de l'histoire de l'univers, ce n'est plus le désordre. C'est d'augmenter toujours l'entropie, mais non pas en créant du désordre, en créant de la lumière. C'est donc qu'on s'est fait quelque part rouler dans la farine par l'expérience quotidienne qu'on a projetée sur le ciel. On a supposé que ce qui m'arrive dans ma cuisine doit être fait des mêmes lois que ce qui se passe dans l'univers, et donc le monde tend vers plus de désordre. En réalité, cette même propriété se manifeste d'une manière totalement différente dans l'univers du fait des conditions de l'univers et de cette capacité d'engendrer la lumière. Donc le monde ne tend pas vers plus de désordre, il tend vers plus d'entropie, oui, mais cette entropie est principalement incarnée par la lumière. C'est un concept qui est un petit peu compliqué, mais qui, je pense, mérite d'être connu parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous vivons une époque qui tend vers, où on a l'impression qu'on tend vers le chaos. Le réchauffement climatique, les pandémies, l'épuisement des réserves naturelles, la chute de la biodiversité, tout ça donne à penser que c'est l'incarnation de la propension naturelle de l'univers à aller vers plus de désordre, et donc que quelque part c'était écrit, et que les lois de la physique conduisaient à ça, et que nous sommes condamnés, il n'y a plus rien à faire. Dans la réalité, l'histoire de l'univers nous enseigne, quand on prend en compte cette histoire de la lumière, que le cours des choses est tout autre. Le cours des choses, c'est que ce qui est naturel, c'est l'organisation, la structuration, la complexité. Et donc le défi pour aujourd'hui, pour moi, l'implication de cette découverte scientifique sur notre vie d'aujourd'hui, c'est que notre défi aujourd'hui, c'est d'être capable de s'organiser, de se structurer à l'échelle de l'humanité. Et là, on s'inscrirait dans l'histoire de l'univers, et non pas par le désordre.
Alors, pour le néophyte, puisque vous écrivez pour un public qui n'est pas forcément idiot, mais qui n'a pas vos connaissances, il a des barrières dans sa compréhension. Alors, premièrement, donc, la lumière, vous dites qu'elle ne fait pas que traduire un phénomène lointain dans le temps et l'espace, elle participe en façonnant la matière. Alors moi, je pourrais vous dire déjà, la lumière, pour moi, c'est ce qui me permet, c'est ce qui impressionne ma rétine et me permet de voir ce qui est autour de moi. Et lorsque je n'arrive pas parce que c'est trop loin, il y a les appareils comme les télescopes. Et vous citez avec beaucoup de sérieux le télescope Hubble qui vous a permis de voir des choses, des images depuis 1990, des images extraordinaires qui comptent dans votre corpus de connaissances. Alors, la question... Lorsque vous parlez de lumière, c'est quoi ? C'est pas forcément ce qui impressionne ma rétine et me permet de voir.
Voilà, vous avez tout à fait raison, c'est très important de préciser ça, j'aurais d'ailleurs dû le préciser au début, c'est que nos yeux sont capables de percevoir la lumière rayonnée par le soleil entre le bleu et le rouge, mais il existe de la lumière, par exemple, dans l'infrarouge, que les lunettes des militaires leur permettent de voir des gens dans la nuit, parce que notre corps rayonne dans l'infrarouge et que nos yeux ne peuvent pas percevoir. Il y a des rayons UV, on sait que quand on va se bronzer, il faut faire attention aux ultraviolets, c'est aussi une forme de lumière. Mais les ondes radio, grâce auxquelles on entend la radio, eh bien c'est aussi une forme de lumière. C'est étrange, mais c'est ce qu'on appelle un rayonnement électromagnétique, c'est porté par des particules de lumière. En fait, d'une manière générale, l'énergie se déplace, s'échange grâce à la lumière. La lumière, c'est un peu comme l'argent grâce auquel on partage, on échange de l'énergie. L'énergie dite électromagnétique est partagée par cette lumière, et donc la lumière n'est pas réduite à ce qu'on peut voir, elle est le véhicule de l'énergie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a cette capacité de façonner l'univers, parce que elle est le véhicule de l'énergie, or c'est l'énergie qui façonne les choses. Par exemple, lorsque, au tout début de l'histoire de l'univers, a eu lieu cette explosion qu'on appelle le Big Bang. Alors, tous les éléments de matière étaient dotés d'une prodigieuse énergie. Ils ne pouvaient pas prendre forme car ils avaient trop d'énergie, les particules avaient des vitesses beaucoup trop élevées pour prendre forme, pour s'organiser, donner naissance à une étoile, une planète. Mais qu'est-ce qui a fait que la matière a pu prendre forme? C'est le fait que cette énergie a été libérée sous la forme de lumière. Et de par le rayonnement de cette lumière dans des domaines qui sont les rayons X, les domaines de la radio, des ultraviolets, du visible, de l'infrarouge, par toute cette succession de rayonnements de lumière, la matière s'est apaisée. Elle s'est apaisée, c'est un peu comme de l'eau qui était trop chauffée et qui était évaporée, et puis à mesure qu'elle s'apaise, elle va devenir liquide et elle va pouvoir tomber au fond du puits. Et l'organisation de la matière dans l'histoire de l'univers, c'est un apaisement de la matière grâce au rayonnement de cette lumière qui n'est pas uniquement, effectivement, celle qu'on peut voir avec nos yeux.
Alors, pour résumer, à la suite du Big Bang, les particules s'unirent pour former des atomes dont la combinaison créa des molécules, puis vinrent les étoiles, les planètes et la vie. On dirait que tout ça, de façon aléatoire ou nécessaire, a mené à cette étoile surdouée qu'est la vie.
Exactement, exactement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que certains pourraient dire, bon, on ne connaît pas la recette de la vie, on ne sait pas comment va émerger la première cellule vivante, qui va la première duplication de l'ADN, etc. Néanmoins, on peut constater une chose, c'est que cette propension de l'univers à engendrer toujours plus de lumière, et donc d'entropie, pour revenir sur la partie un peu plus technique, mais plus de lumière, eh bien, elle s'exprime de façon la plus exacerbée avec l'être vivant. Un exemple de cela, c'est le suivant. Si un être vivant, par exemple, n'importe quel être, votre voisin, avait la masse du Soleil, si votre voisin avait la masse du Soleil, imaginons qu'on le gonfle, il ait la masse du Soleil, eh bien, comment se comparerait la lumière qu'il rayonne? Il faut savoir que nous-mêmes, là, pendant que je vous parle, nous rayonnons de la lumière invisible, de la lumière infrarouge. Et si nous avions la masse, si votre voisin avait la masse du Soleil, comment se compare la quantité de lumière qu'il rayonne, qu'il rayonnerait avec celle du Soleil? Eh bien, il rayonnerait 200 000 fois plus de particules de lumière que le Soleil. 200 000 fois plus. Chacun de nous, nous sommes des petits soleils qui rayonnons avec une efficacité qui est 200 000 fois plus grande que le Soleil. Or, dès lors qu'on sait que le nombre de grains de lumière que nous rayonnons est la propension de l'évolution de l'univers à engendrer toujours plus de morceaux parce que c'est plus probable, c'est cette augmentation d'entropie, eh bien on s'aperçoit que nous répondons mieux que toute autre forme d'organisation de la matière, nous les êtres vivants, à la propension naturelle de l'univers physique, mathématique. Et donc la vie semble être, si elle était purement aléatoire, si elle n'existait pas en répondant aux lois de la physique, ça serait une étrange coïncidence qu'elle soit l'incarnation de ce qui répond le mieux à ce principe physique. Vu autrement, on peut dire, en se basant sur ce constat, qu'il y a de très fortes chances que parmi les 10 milliards de planètes qu'on estime exister dans notre seule galaxie, il existe de la vie.
Alors une question encore naïve, si nous étions le siège de ce rayonnement plus fort que les plus gros soleils, comment avons-nous une présence pacifique? On pourrait brûler tout, rayonner, irradier notre voisin. Comment arrivons-nous à maîtriser de façon polie, entre guillemets, notre rayonnement énorme?
Eh bien, en fait, en pratique, on s'auto-détruit avec. Parce que voyez-vous, nous sommes des sources de rayonnement, mais pour nourrir cette prodigieuse quantité de rayonnement que nous faisons, nous nous nourrissons. Et pour nous nourrir de manière plus efficace, nous avons construit des machines. Et pour être capable de transporter ces aliments qui nous nourrissent et qui nous permettent de rayonner, Nous avons construit des bateaux, nous avons construit des camions, nous avons construit des moyens de locomotion. Et chacune de nos constructions s'inscrit dans le même processus et donc produit toujours plus de lumière. Seulement voilà, aujourd'hui, nous sommes victimes d'une accumulation de lumière si prodigieuse sur Terre qu'elle engendre le réchauffement climatique, qu'elle engendre le dérèglement climatique, et on est victime de notre de la source même de notre existence. On est victime nous-mêmes de la lumière. La lumière devient une source de pollution. Aujourd'hui, c'est la principale menace pour la survie de l'espèce. C'est le fait que la lumière qui nous a donné naissance devient une source de pollution. Donc il va falloir effectivement qu'on arrive à mieux gérer cette forme d'énergie, et notre exacerbation à engendrer, que ce soit par nous-mêmes ou par nos productions, de la lumière. Et bien sûr, ce qui bloque la lumière, c'est-à-dire le gaz à effet de serre qui empêche la lumière de partir. Le vrai problème, c'est que cette lumière n'est plus libre de partir. C'est un peu comme si on avait un compte en banque avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Donc l'argent, c'est la lumière, c'est ce qui est le véhicule de l'énergie. Sauf que ce compte en banque, on n'a plus le code de la carte bleue. Et donc on ne peut plus puiser dedans. Et donc on ne peut pas s'acheter à manger, on ne peut pas vivre. Aujourd'hui, notre banque est bloquée, c'est l'effet de serre. Et donc tout ça, c'est lié à cette même problématique.
Alors, il y a maintenant, le questionnement sur les images. Les images que le télescope nous envoie, les images que nous voyons de l'espace, ressemblent à des peintures, et ça c'est vrai, vous avez cité une femme, Madame Kessler, je crois, qui parlait donc de la beauté de ces images qui ressemblent à des peintures de l'Ouest américain. Et moi, je ne savais pas ça, mais je trouvais toujours que ça ressemblait à du Turner, à des peintures, vraiment. Et j'ai trouvé que c'était un peu suspect, cette conformité des images spatiales avec notre création artistique. Est-ce que les images sont trafiquées? Est-ce qu'elles sont maquillées?
Vous avez entièrement raison, c'est entièrement suspect. Ces images, si elles ressemblent, comme vous le disiez, aux tableaux avec lesquels vous êtes familiers, c'est parce que ceux qui les ont produites sont complètement influencés par leur propre culture artistique et ont retranscrit le choix de la palette de couleurs dans les images du ciel. Donc, ces images, en quelque sorte, de par le choix des couleurs, du contraste entre le rouge, le vert et le bleu, sont des faux. Ce sont des faux tableaux. Néanmoins, et en particulier, par exemple, les dernières images du télescope spatial James Webb, qui sont dans l'infrarouge, qui sont donc des couleurs qu'on ne peut pas voir avec nos yeux et qu'on a sur nos écrans d'ordinateur qui apparaissent en rouge, bleu, vert, que clairement, si on les voit avec nos yeux, c'est que ce ne sont pas les vrais, puisque les vraies couleurs sont même invisibles. Et donc, ce sont des faux. Néanmoins, pour le scientifique, la couleur... Alors, déjà, il y a un premier aspect qui est la beauté. On s'est rendu compte, vous savez, quand les Américains se sont rendus compte que la beauté faisait partie quelque part d'une forme de conquête de l'opinion publique et des gens, d'une part du soft power, on s'est rendu compte rien ne valait la puissance de la beauté. Même un missile ne vaut rien à côté de la beauté. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu de la toute-puissance américaine de par les belles images que la NASA sort. Il n'y a plus besoin de mettre le pied sur la Lune, même s'ils vont y retourner, ou de montrer qu'on a un plus gros missile. La beauté des images convainc tout le monde de la toute-puissance d'une culture. C'est d'ailleurs pourquoi Joe Biden, le lundi 11 juillet 2022, est allé sur les antennes, lui qui ne va jamais parler de science, pour dire, regardez, la culture américaine, la civilisation américaine est si puissante, regardez la beauté des images qu'on a rapportées de l'univers. C'est devenu l'incarnation d'une toute-puissance. Donc la beauté a la capacité de sublimer un peu tout le monde. Et d'ailleurs, c'était le philosophe Emmanuel Kant lui-même qui disait qu'un paysage sublime, comme une montagne qui s'élève, va avoir tendance à pousser l'individu à vouloir dépasser les limites de la raison, à se dépasser. Et donc la beauté sublime est une façon d'évoluer. Et il y a donc un message subliminal. Bon, ça c'est une première chose. Il y a une deuxième chose, c'est que chaque couleur est comme un langage. Quand nous voyons du rouge sur une image, on sait que ce sont des atomes qui ont été chauffés par des étoiles qui viennent de naître, et donc que dans cette région-là, une étoile vient de naître, et que dans telle autre, une étoile vient d'exploser. On sait que quand il y a du vert, ça veut dire qu'il y a des atomes entre les étoiles qui peuplent l'espace et qui se préparent à donner naissance à de nouvelles étoiles. On va reconnaître de l'oxygène, du soufre, on va reconnaître tout un tas de propriétés, et on va être capable, grâce aux couleurs, de retranscrire à partir d'une seule image l'histoire qui a conduit à cette image. On voit un film grâce aux couleurs. Et donc, pour le scientifique, au-delà du fait que ce tableau est un faux, il y a quand même une information scientifique pertinente dans les couleurs. Et on s'est même rendu compte que lorsqu'un scientifique publiait un article en prenant soin de veiller à l'esthétique colorée de la présentation de ses résultats, son article était beaucoup plus cité que les autres.
Donc, on peut dire que si les images sont embellies, légèrement maquillées ou très maquillées, pour intéresser le public, pour sublimer notre raisonnement, puisque on est boosté par la beauté de certaines images, on ne peut pas non plus dire que l'image scientifique, parce qu'elle est maquillée, est émancipée par rapport à la science, puisqu'elle continue à donner des références scientifiques et qu'elle sert la recherche. Est-ce que...
Exactement.
Alors, dernière question par rapport à ça. Est-ce qu'on peut quantifier cette beauté, la mettre en équation ?
Alors, ça, c'est une très bonne question. Et il est clair que quand on parle de beauté, on arrive à un domaine qui est subjectif, hein, et qui relève de domaines qui vont bien au-delà de ce que la science mathématique quantifiée, rigoureuse, peut quantifier. Néanmoins, le philosophe François Cheng a posé cette question. Il a dit « L'univers aurait pu ne pas être beau, et pourtant il est beau. » Et il est dans un livre qui s'appelle « Cette méditation sur la beauté », et il ajoute plus loin: la beauté, c'est l'expression de la singularité. Alors, si on s'en tient à cette idée que l'univers, lorsqu'il y a eu le Big Bang, était parfaitement homogène, c'est-à-dire qu'il n'existait pas de forme complexe, singulière, il existait une sorte de soupe indiscernable. Si vous alliez à droite, à gauche, en haut ou en bas, vous auriez vu toujours exactement la même soupe. Depuis ça, depuis cette époque-là, l'univers a eu une histoire et aujourd'hui, il existe des formes singulières. Il n'y a pas deux êtres humains, par exemple, qui ont le même visage. Nous sommes 8 milliards d'êtres humains, il y a 8 milliards de visages différents. Nous sommes des êtres singuliers, complexes. Même les fleurs, même les planètes sont toutes différentes, singulières. La Terre, il n'y a pas une deuxième Terre dans l'univers, il y a d'autres planètes qui lui ressemblent, mais pas la même. Donc, la singularité, la complexité a émergé de l'universalité, de l'homogénéité, et cette singularité fait place, laisse la place à une forme de beauté, car la beauté vient justement de la différence, de la singularité. Donc c'est une façon très très simplifiée ce que je dis là. Mais si on accepte cette idée-là, très 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 simplifiée de ce que pourrait être la beauté d'un point de vue scientifique, alors on peut le quantifier. On peut quantifier la complexité d'un objet, d'un individu, on peut qualifier ce qu'on peut mesurer, le nombre, la quantité d'informations, c'est quelque chose, il y a toute ce qu'on appelle une théorie de l'information. Et on peut voir comment évolue l'information. Voilà. Et donc on s'aperçoit que l'information, cette quantité qui caractérise la singularité, eh bien c'est exactement le même paramètre que celui qu'on appelle l'entropie, sauf qu'il est multiplié par un signe moins 1. C'est-à-dire que plus vous avez l'un, et moins vous avez l'autre. Et donc, on s'aperçoit que l'entropie de la matière est une façon de mesurer sa singularité. Et donc, aujourd'hui, nous disposons de formules mathématiques pour quantifier cet aspect-là, qui est une véritable simplification, mais qui permet effectivement de se positionner par rapport à cette évolution.
Alors, beauté pourrait être cohérence, pourrait être sollicitation particulièrement importante de l'esprit de l'autre, élever l'intérêt, comme disait Kant, que la beauté nous permet d'élever notre raisonnement, de le sublimer, de nous tirer vers plus de cohérence, plus d'universalité peut-être.
Oui, tout à fait. Il y a un défi pour nous face à ce constat qui consiste à voir que si l'histoire de l'univers aboutit à et continue dans cette logique-là, alors peut-être que notre propre rôle dans cet univers est de participer à cette beauté, de s'inscrire dans cette beauté. Et elle s'inscrit, cette beauté-là, c'est le défi de la singularité dans l'universalité, c'est-à-dire exister dans sa différence tout en ayant une capacité d'agir avec l'autre, de la même manière qu'il n'y a pas deux grains de sable identiques sur une plage, mais on parle de sable. Quelle est la capacité des 8 milliards d'individus sur cette Terre d'être capable de donner sens à un être universel qu'on appellera l'humanité, d'agir ensemble tout en gardant, en conservant notre singularité, en la nourrissant. Ça, c'est peut-être le défi qui est souligné par les découvertes de la physique aujourd'hui.
Alors, David Elbaz, une question que j'ai envie de vous poser. Vous avez parlé de cette soupe d'avant le Big Bang, cette soupe informelle, indifférenciée, avant le tohu vavohu, avant le tohu-bohu. De quoi était constituée cette soupe, puisqu'il n'y avait pas de matière avant? Qu'est-ce que c'était que cette chose-là?
Alors, en fait, la soupe dont je parlais était ce qui a émergé juste avec le Big Bang. Je ne parlais pas de ce qui s'est passé avant le Big Bang, parce que nous n'avons pas d'explication de ce qu'il y avait avant le Big Bang. Par contre, effectivement, lorsque vous parlez du tohu vabohu, c'est quelque chose d'intéressant, une analogie remarquable, puisque on parle du Big Bang pour parler de cette origine des choses. On parle du tohu vabohu ou tohu vabohu dans la Bible, dans la Torah. On parle chez les Chinois, on parle de Runtun pour décrire le chaos primordial à l'origine de toute chose. Chez les Maoris en Nouvelle-Zélande, on parle de Kore-Kore. Chez les Peuls en Afrique, on parle de Kala-Kala. Or, il y a une étrange coïncidence. C'est qu'à chaque fois qu'on veut décrire la masse informe qui précède toute chose, cette espèce de chaos primordial, il y a une résonance sonore. Tohu-bohu, Runtun, Kore-Kore, Kala-Kala, Big Bang. Comme si l'ordre, le principe d'organisation était implicite, non encore manifesté, dans le son, alors que le mot signifie désordre, signifie chaos primordial. Et on retrouve ça dans toutes les grandes traditions. Et on le retrouve dans la science, alors même que celui qui a donné le nom de Big Bang, Fred Hoyle, voulait contester cette théorie. Il n'a pas pu s'empêcher d'utiliser un terme qui rappelle celui des grandes traditions. Et donc là, il y a une question intéressante qui est de voir que lorsque nous regardons l'univers, lorsque nous décrivons nos origines, nous sommes imprégnés d'une culture, nous sommes imprégnés de ces principes-là, et on les retrouve dans toutes les grandes traditions. Quelque part, la science pose inconsciemment la même question que le mystère des grandes traditions, et elle n'arrive pas à se sortir de ça. Et la réponse à cette question que vous posez, qui est de savoir, mais qu'y avait-il avant, quelle est l'origine de toute chose, etc., pour l'instant, c'est de l'ordre d'un mystère insondable pour la science et qui est un peu nourrissant dans le sens où le fait qu'on sache qu'il y a un infini des possibles et qu'on ne soit pas capable de répondre à tout, ça permet de nourrir la curiosité à l'infini. Et c'est peut-être ça qui est le plus utile dans la science, c'est de maintenir la curiosité et pas nécessairement de l'assouvir de manière absolue jusqu'à l'éteindre.
Alors, une toute dernière question là, David Elbaz. Par rapport au temps, le temps, l'origine du temps, la flèche du temps, et en corollaire, y a-t-il une possibilité de vie ailleurs dans l'univers?
Alors, le temps, c'est la question qui est la plus délicate en physique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à mettre la main sur la raison pour laquelle le temps s'écoule. Que ce soit dans la théorie de la relativité d'Einstein ou la théorie de l'infiniment petit, la mécanique quantique, le sens dans lequel le temps s'écoule n'existe pas. Ces deux théories ne permettent pas de traduire ce qu'on appelle la flèche du temps, l'irréversibilité du temps, le fait qu'il y a un passé qui précède un présent, qui précède un futur. La seule chose qui incarne le cours du temps, c'est cette propension de l'univers à se structurer et à engendrer de la lumière et à créer ce qu'on appelle de l'entropie. C'est la seule incarnation du principe de la flèche du temps, de ce sens du temps. Et donc, en quelque sorte, l'organisation du monde, dans une forme de plus en plus complexe, et cette histoire de la lumière, c'est aussi l'incarnation du temps. C'est aussi là que se trouve l'origine même du cours du temps. Et donc le plus grand mystère de la physique. Il est lié à cette histoire, à cette plus belle ruse de la lumière.
Eh bien, la vie ailleurs ou dans l'univers, est-ce que vous avez une intuition d'écrivain, de scientifique? Vous écrivez, vous aimez vous goûtez la beauté de la langue, vous aimez faire des jeux de mots, vous êtes un érudit en poésie. Alors, la vie ailleurs, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question?
Alors aujourd'hui, pendant que je vous parle, il y a des scientifiques qui sont aux commandes du télescope spatial James Webb et qui sont en train d'explorer l'atmosphère d'autres planètes qui tournent autour d'autres étoiles dans notre galaxie. Il est possible que dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, on trouve à la une de nos journaux la découverte la plus exceptionnelle qui serait la preuve qu'il existe de la vie ailleurs dans l'univers. Je pense que c'est même hautement probable que ça arrive, mais peut-être pas dans quelques années, peut-être dans quelques décennies, parce qu'il faut, c'est un petit peu compliqué à prouver. Mais le jour où ça arrivera, ça sera intéressant parce que ça voudrait dire qu'on n'est pas seul dans l'univers. C'est une question fondamentale, par exemple, pour les religions, les religions du livre. Par exemple, y a-t-il eu un Christ? Y a-t-il eu un Messie? Pour les chrétiens, ils disent qu'il y a avant et après Jésus. Et pour ceux qui habitent sur une autre planète, ont-ils une âme, etc. Donc tout un tas de questions vont se poser. Je pense que la vie, l'existence de la vie ailleurs dans l'univers, et la plupart de mes collègues le pensent, tient de l'évidence. Je sais que j'ai des collègues qui pensent qu'on est seul dans l'univers. Je pense qu'une minorité. Ils le pensent parce qu'ils se rendent compte que la Terre est un astre singulier qui a une histoire particulière, mais la singularité ne prouve pas qu'il n'y a pas d'autres êtres, puisque nous sommes tous des êtres singuliers. Et donc la vie, à mon avis, elle doit exister ailleurs dans l'univers, et je pense que le jour où nous saurons qu'il y a de la vie dans l'univers, ça aura une implication sur notre propre positionnement dans le monde. Ça va peut-être nous donner une forme d'humilité, nous apporter une forme d'humilité. Et donc je rêve du jour où nous saurons de façon définitive qu'on n'est pas seul.
Je vous remercie infiniment, Monsieur David Elbaz. Vous êtes astrophysicien, directeur scientifique du département d'astrophysique du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous avez fait paraître des livres passionnants, visionnaires, scientifique chez Odile Jacob, le dernier dont nous avons parlé aujourd'hui, La plus belle ruse de la lumière, et si l'univers avait un sens, c'était absolument passionnant. Je vous remercie infiniment.
Merci beaucoup.
Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Ah.